kulipisha kisasi na kuyarudisha maendeleo nyuma. Mazungumzo ndicho kiti cha amani, kimya na upendo ni sabuni ya roho.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maïdéléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Maïdéléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radio-journales. Au sommaire, un mort, plusieurs femmes et filles violées, des blessés ainsi que de nombreux biens de valeur emportés. C'est le bilan des attaques menées dans la nuit de mercredi à jeudi 2 octobre 2025 contre des habitations des paisibles citoyens dans plusieurs villages du groupement du Chungu en territoire des Kabarés. Au sommaire également, les jeunes sont appelés à faire preuve de sagesse en privilégiant la non-violence afin de renforcer les mécanismes de recherche et de la paix. C'est l'une des recommandations formulées par le Conseil urbain de la jeunesse de Bukavu à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence commémorée chaque 2 octobre. On en parle dans cette édition du journal. La technique est assurée par Barton Boussi, mais au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïdéléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et débutons cette édition du journal par cette information. Le gouverneur du Sud-Kivu sous la FC M23, Patrick Busubangui Chombo, interdit désormais toute activité commerciale sur certains axes de Bukavu. Sont concernés les tronçons de la route menant à la régie des eaux sur avenue Maniema, au niveau connu sous le nom de Shebaba Chingazi, ainsi que la portion allant de Nyawera jusqu'à la place de l'indépendance. Les vendeuses aux vendeurs concernés disposent d'un délai de 7 jours pour regagner le marché de la Libération, située dans la concession de la SNCC dans la commune de Kadutu. L'exécution de cette mesure est confiée au maire de la ville, au bourgmestre de la commune d'Ibanda et au service de police. Par ailleurs, dans un autre communiqué, le gouverneur du Sud-Kivu sous la FC M23 demande aux gérants, tenanciers et propriétaires d'hôtels de déclarer les cadres du mouvement AFC M23 qu'ils hébergent en fournissant identité, numéro de téléphone et numéro de chambre, et ce, dans un délai de 72 heures. Les hôtels concernés sont Orchide, Hôtel Résidence, New Riviera, Hôtel Best Kivu, Hôtel Horizon, ainsi que l'Hôtel Begonias. Ces deux communiqués ont été lus à la RTNC Bukavu par la cellule de communication du gouvernorat des provinces et portent la signature de Maître Bouino Jean-Richard, directeur de cabinet du gouverneur. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal, un mort, des femmes et des filles violées, des blessés et plusieurs biens de valeur en portée, c'est le bilan des attaques perpétrées contre des maisons des paisibles citoyens dans plusieurs villages du groupement d'Ichungu, en territoire des Kabarés dans la nuit de mercredi à jeudi 2 octobre 2025. Le chef du groupement d'Ichungu, Maître Victoire Lugalika, qui nous livre l'information, explique que c'est aux environs de 19h30 que des hommes en armes ont fait incursion dans ce groupement situé au bord du lac Kivu. N'est-ce pas, Alain Kabika?
En nombre de 9 et masqués pour ne pas se faire identifier, c'est hors la loi ont pillé des biens des valeurs, violé des femmes et tiré sur un jeune homme qui a perdu la vie. Malgré des alertes lancées par des habitants, ces bandits ont réussi à opérer en toute quiétude. Le chef des groupements du Chungu déplore ces énièmes cas d'attaque et appelle les autorités à renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. Maître Victoire Lugalika en parle.
19h30, le groupement du Chungu est visité par des bandits très bien armés. Ils sont au total 9 et 4 autres sont au lac. Ils gardent les engins par lesquels ils sont venus. Nous avons perdu 2 personnes par balle. D'autres sont logés dans des hôpitaux. Ils ont eu le temps de violer même nos femmes et nos filles. Pour ce même mois de septembre, c'est la troisième visite que nous connaissons de ces bandits. Nous avons tout fait pour les arrêter sans succès car ils nous refoulaient par des coups de balle. Nous sollicitons aux autorités la sécurité des personnes et de leurs biens dans le groupement de Chungu car on ne dit plus. Je vous signale qu'ils sont partis en nous demandant de nous préparer parce qu'ils doivent revenir chaque fois qu'ils le voudront parce que nous n'avons pas de sécurité.
Les personnes blessées suivent des soins dans des structures sanitaires de la place, conclut le chef des groupements du Chungu. Précisons par ailleurs que cette situation a provoqué la paralysie des activités, en l'occurrence les écoles, qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes ce jeudi 10 octobre 2025, explique pour sa part Raha Lucas, enseignant et acteur de la société civile de la place.
Et ici dans la ville de Bukavu, un jeune garçon du nom de Ziali Roi Jean-Paul Rushenge, âgé d'environ 22 ans, habitant du quartier Mossala dans la commune de Kadutu, a été tué par des bandits armés dans la nuit du mardi 30 septembre à mercredi 1er octobre 2025. La société civile sous noyau du quartier Mossala qui nous livre l'information explique que c'est hors la loi ont pillé dans plusieurs familles des quartiers Mossala, Chimpunda et même Buolokasha. Malgré des alertes lancées par la population, ces bandits ont opéré en toute quiétude déplore la société civile sous noyau de Mossala. Son président Maïgal Maïcha plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires en faveur de la population. On l'écoute.
Continuons à déplorer la situation d'insécurité qui continue à régner dans le quartier Mossala. Des bandits bien armés ont commencé à opérer à partir de Buolo 4. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont partis vers Buolo 5. C'était déjà autour de 19h30. Ils ont réussi à entrer dans plus de 4 maisons, des boutiques où ils ont pillé. Ils ont continué leur sans besoin jusqu'à Foulou 1er où ils ont agressé une personne dans leur chemin, M. Chouba Kalaboshi, infirmier de son état, et ils ont ravi téléphone et argent. Vers 20h15 déjà, ils étaient au niveau de Buolo 1er. Ils ont investi 2 maisons et 2 boutiques. Le pire est arrivé. Ils ont tiré sur M. Ziali Roi Jean-Paul Rushenge. Il est mort sur place. La situation sécuritaire reste délétère. C'est pourquoi nous demandons à la population de rester vigilante, continuer à dénoncer et d'alerter. Nous demandons aux autorités de s'investir dans la situation sécuritaire. Qu'on nous rapproche de la police, qu'on nous amène pour la police de proximité.
Vous venez là donc de suivre Maïgal Maïcha, le président de la société civile sous noyau de Mossala. Et toujours dans les chapitres d'insécurité, disons que plusieurs cas d'insécurité sont rapportés ces derniers temps aux heures vespérales sur les tronçons routiers allant du rond-point de l'ISP Bukavu jusqu'au rond-point Major Vangu en commune d'Ibanda. L'alerte est du mouvement citoyen Obapej RDC qui fait savoir qu'à partir des 20h, des personnes munies d'armes blanches agressent les passants en les dépossédant des biens à leur possession. Selon Bertin Mabunda, militant de cette structure, ce tronçon est devenu un foyer d'insécurité, surtout à certains endroits névralgiques, comme à l'entrée d'Ichefane, la voie du Congo, l'entrée derrière le marché des planches, après l'Ancity Odari dans la concession de l'église Kimbanguiste et à l'entrée de l'EDA PSP. Le dernier cas a été recensé mercredi dernier. Dans la soirée, les victimes sont deux femmes qui revenaient d'Andeï. Celles-ci ont été agressées et leur téléphone est de l'argent extorqué, précise notre source. Bertrand Mabunda plaide auprès des autorités urbaines pour le renforcement de la sécurité dans cette partie de la ville de Bukavu. On l'écoute.
Le long de la route rond-point Major Vangu jusqu'à l'ISP Bukavu. Il y a des citoyens des antivaleurs qui se regroupent avec le couteau machette en menaçant les paisibles citoyens qui passent dans la route aux environs de 20h, 20h30, 20h45. Et ils tracassent les paisibles citoyens. Eh bien, nous demandons aux autorités compétentes et à l'attribution de l'ordre dans la ville de Bukavu, a priori le maire de la ville, de nous aider à regarder s'il peut nous amener quelques agents de l'ordre au niveau de ces coins-là cités, parce que c'est déjà plus de 5 à 10 cas déjà comptés au niveau du rond-point Major Vangu, entrée Chefanet, entrée du marché de planches à l'Institut Odari, ainsi que l'entrée de l'EDAP route pavée chez Nganda Balik.
Échangeons de chapitre à présent, comme d'ailleurs annoncé au sommaire de cette édition du journal, les jeunes doivent être les vecteurs de la paix et non un canal par lequel passe la violence et la haine. Ils doivent éviter de se faire manipuler pour des femmes qui ne profitent qu'à une catégorie de personnes. Ces recommandations sont de Junior Kamwele, président du conseil urbain de la jeunesse à Bukavu, à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la non-violence, célébrée le 2 octobre de chaque année. Détail, Hélène Boudjiriri.
Pour lui, en cette période de crise, les jeunes devraient faire preuve de sagesse en œuvrant pour la non-violence et ainsi accélérer les mécanismes de recherche de la paix. Il parle notamment des discours de haine partagés via les réseaux sociaux en majorité par les jeunes seulement pour satisfaire un individu. Junior Kamwele parle également des désaccords qui naissent juste par incompréhension mais qui se soldent par des conflits provoquant ainsi la division en lieu et place de l'unité du peuple. Le président du conseil urbain de la jeunesse à Bukavu Bukavu estime qu'il est temps pour chacun de peser ses actes et sa manière de faire pour espérer à une paix dans la région des Grands Lacs. Junior Kamwele en parle.
Aujourd'hui, ça ne doit pas être qu'une journée de commémoration, mais ça doit être également une journée de méditation. Méditation parce que nous vivons dans une région à problème. Souvent, nous sommes victimes de ce qui se passe. Nous pensons, nous, en tant que représentants de la jeunesse, qu'il faut maintenant que les jeunes commencent à méditer sur leur comportement, sur leurs attitudes et d'arrêter d'être les canaux par lesquels la violence peut passer. Les gens à qui profite cette violence sont souvent les personnes qui sont soir de leur vie et pour y arriver, ils utilisent souvent les jeunes, que ce soit dans des groupes armés, que ce soit dans des attaques sur les réseaux, parce que la violence d'abord commence sur le plan verbal. Nous pensons que les jeunes, ils sont manipulés, ils sont acteurs de ce qui se passe, acteurs indirects et inconscients. Nous estimons qu'ils doivent maintenant commencer à méditer, à penser leurs actes pour d'être des canaux par lesquels la violence passe.
Notez que cette journée a été instaurée pour promouvoir une culture de paix, rappeler que les conflits peuvent être résolus sans faire recours à la force, sensibiliser les publics au principe de la non-violence et à leur implication dans la vie quotidienne, mais aussi encourager les gouvernements et les institutions à adopter des politiques favorisant la prévention des conflits et la résolution pacifique des différends. Pour l'année 2025, cette journée est célébrée sous le thème « Que faire de nos colères ?».
Merci à vous Hélène Boudjiriré. 15 ans après la publication du rapport Mapping par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a dénoncé le mercredi 1er octobre l'inaction persistante des autorités congolaises internationales face aux crimes graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Ce rapport publié le 1er octobre 2010 documente 617 incidents violents et suggère que des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et potentiellement des actes de génocide ont été perpétrés par les parties impliquées dans les conflits armés. Denis Mukwege rappelle que ces guerres ont eu une forte dimension internationale. Dans sa déclaration, ce prix Nobel de la paix fustige l'absence de poursuites judiciaires, des réformes institutionnelles et des véritables mécanismes de justice transitionnelle. Il exprime son indignation face aux allégations de corruption visant les fonds de réparation créés pour les victimes, notamment le Fonds Narev et le Frivao. Il appelle à la mise en place urgente d'un tribunal pénal spécial pour la RDC, à la publication de la base de données confidentielles du HCDH et à l'engagement de la Cour pénale internationale et des États européens via le principe de compétence universelle. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maendeleo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal de voix continue de s'élever après la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila assortie d'amende. Plusieurs acteurs politiques et sociaux estiment que ce procès ne constituait pas une priorité pour la République démocratique du Congo, confrontée à de multiples défis. C'est ce que pense Paulin Bishakabalia, membre du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, dans une interview accordée à la rédaction de Radio Maendeleo jeudi 2 octobre 2025. Détail, Myriam Mufano.
Celui-ci estime que l'urgence devrait plutôt porter sur la capacité du gouvernement à fédérer les différentes forces sociales autour d'un objectif commun qui est la restauration de la paix dans la partie est du pays et la cohésion nationale. Un procès de cette nature risque de réouvrir les blessures et de raviver les divisions entre Congolais au lieu de renforcer l'unité, estime Paulin Bishakabalia. Malgré les horreurs dans la gestion de l'ancien président de 2001 à 2018, cette condamnation ne devrait pas être son sort, précise notre source qui indique que dans plusieurs pays du monde, un ancien président est considéré comme un conseiller du pouvoir en place et ne peut subir une telle humiliation. Le pays n'a plus besoin d'instabilité, a-t-il martelé, appelant à la responsabilité de tous les acteurs politiques et sociaux. Paulin Bishakabalia est dans cet élément.
Dans tous les états du monde, les états civilisés, un ancien président ne peut pas être dans l'opposition. Vous allez voir que aux États-Unis, quand un président quitte le pouvoir, il devient sénateur à vie, devient comme un conseiller, parce qu'il connaît beaucoup de dossiers. Mais les nôtres, on l'a poussé à l'exil. On pouvait même terminer tous les avantages qu'on lui donnait, mais pas vraiment les pourchasser comme nous le constatons maintenant. Personnellement, je ne suis pas positif par rapport à l'avenir de la cohésion sociale dans notre pays. C'est quand même un ancien président qui a fait 18 ans au pouvoir, qui a tissé des relations à l'extérieur, qui a tissé des relations à l'intérieur aussi du pays, qui a nommé des généraux, qui a nommé des ministres, qui a nommé des magistrats. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter un ancien président. Malheureusement, en politique, les retours d'une vengeance, c'est la vengeance.
À 3 ans de la fin du mandat présidentiel en cours, Paulan Bichakabalia invite les différentes parties à privilégier les dialogues et à trouver un terrain d'attente pour garantir un climat apaisé. Il plaide pour que les énergies soient orientées vers la consolidation de la paix et la reconstruction du pays plutôt que vers les initiatives perçues comme source de nouvelles tensions.
Merci à vous Myriam Moufano et parlons santé à présent. Disons que les efforts se poursuivent pour couper la chaîne de contamination du choléra dans les zones de santé de Fizi et Nundu en territoire de Fizi. En plus de sensibilisation de masse menée par les relais communautaires avec l'accompagnement de la société civile, des partenaires se sont déjà aussi alignés aux côtés des gestionnaires de la zone de santé pour la prise en charge des cas et l'appui aux structures. C'est ce qu'on dit que Maître Jacques Alimassi, président de la société civile Force Vive du territoire de Fizi, dans un entretien avec Radio Maïndéléo, jeudi 2 octobre 2025. Il précise que deux cas continuent d'être enregistrés, mais la courbe est déjà descendante par rapport aux dernières semaines. Il indique néanmoins que l'appui des partenaires reste insuffisant, car en plus du choléra, les structures de santé font face à plusieurs autres défis. Ainsi, Maître Jacques Alimassi recommande un appui de plus en plus fort afin de mieux servir la population. Il est joint au téléphone.
Il fait de cela des mois, il s'observe la multiplicité des cas de choléra dans ces deux zones de santé. Et cette situation inquiète beaucoup plus la population, inquiète même les autorités administratives et sanitaires. Et quelques mesures sont déjà en train d'être envisagées pour mettre fin à cette contamination de la maladie de choléra dans les deux zones de santé. Il y a des sensibilisations, les relais communautaires qui sont en train de sensibiliser la population par rapport au respect des mesures d'hygiène pouvant nécessairement mettre fin à l'augmentation des cas de choléra. Il y a des partenaires qui sont dans la zone, qui sont en train d'essayer de venir en aide, appuyer les zones de santé touchées par les choléra, mais nous pensons que cette aide humanitaire est insuffisante. C'est pourquoi nous lançons appel à d'autres partenaires qui œuvrent dans les domaines de la santé de pouvoir venir en aide et assister les zones de santé touchées par les choléra.
Et pendant ces temps, la population de l'îlot d'Ichouchou, située dans le territoire d'Idjoui, est exposée aux épidémies et à diverses précarités en raison du manque d'eau potable et d'autres infrastructures de base. Cette alerte a été lancée par Chance Loaguera, coordonnateur de la plateforme des organisations des jeunes d'Idjoui, au cours d'un entretien accordé à la rédaction des radios Maïndéléo. Habitée essentiellement par les pêcheurs venus de plusieurs villages d'Idjoui, ainsi que des territoires de Calais et Kabar et dans la province du Sud-Kivu, cet îlot abrite plus de 2000 personnes. Cette population vit sans aucun service social de base, aucun poste de santé, aucune maternité, aucune école, en accès quasi inexistant à l'eau potable, indique Chance Loaguera, qui en appelle à une intervention des autorités, organisations humanitaires et personnes de bonne volonté. Il est au micro de notre permanent à Idjoui, Richelieu Biamana.
C'est à ce sens que j'étais en train de vouloir, à partir de cette sortie, recommander aux gens ayant des responsabilités en main. Entre autres, je peux citer les autorités locales, je peux citer le gouvernement congolais, les structures sanitaires, même les ONG, d'intervenir vite avant que les pires ne se manifestent. C'est à ce sens que je viens de constater que si on ne parvient pas à le faire avant, c'est que les gens vont disparaître. Et ça sera pour toujours un comportement des Congolais qui attendent toujours les morts alors qu'ils pouvaient intervenir. Dans la vie courante, il existe des principes et normalement il faudrait que l'on intervienne avant.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que le chef de groupement de Bouchumba en territoire de Kabare, Benjamin Chimoussa Moressa, interdit la fabrication, la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées sur toute l'étendue de l'entité sous son administration. Cette mesure intervient après avoir reçu des alertes sur les conséquences néfastes qui se font remarquer sur la santé des consommateurs de ces boissons. Au terme d'une descente effectuée dans plusieurs villages, le chef de groupement de Bouchumba, Benjamin Chimoussa, a réuni la notabilité autour de la question et il a été convenu de travailler de commun accord pour lutter contre la fabrication, la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées. Celui-ci a dit que plusieurs des consommateurs présentent déjà des signes de maladie et d'autres sont déjà amortis avant même d'atteindre l'âge de la vieillesse. Benjamin Chimoussa en parle dans cet élément.
J'ai pris cette décision de la destruction de cette boisson fortement alcoolisée qui emboîte aussi la vision de notre administrateur des toits de cabaret qui a aussi martonné sur cette question que chaque groupement aille faire des recouvrements forcés de cette boisson sur toute l'étendue de la chefferie de cabaret. Et moi, j'étais peut-être le premier à prendre aussi cette décision dans mon groupement et voici que les résultats sont en train de s'est manifesté positivement sur toute l'étendue. Je crois que d'autres groupements peuvent m'emboîter. Ça peut donner une image très belle sur cette étendue du territoire des cabarets.
Il demande à ses collègues chefs de groupement à faire de même dans leurs entités pour sauver la population. Signalons que plusieurs variétés de boissons fortement alcoolisées sont fabriquées localement ces derniers temps, mettant ainsi en danger la vie des consommateurs.
La revue de presse. Radio Mindélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Alain Kabika, les conditions inhumaines des détenus à la prison centrale de Mulungi à Uvira et les concerts annoncés du chanteur congolais Fally Ipupa au Stade de France font partie des sujets commentés par la presse ce jeudi 2 octobre 2025.
L'Observatoire droit, justice et gouvernance locale pour la cohésion sociale en RDC alerte sur des conditions de détention inhumaines à la prison centrale de Mulungi à Uvira en province du Sud Kivu, titre le site lapresseafricaine.net. Maître Justin Baraïga, directeur de l'observatoire cité par ces médias, parle notamment du manque d'eau au sein de cette maison carcérale, de la nourriture, des soins et d'une prise en charge judiciaire conforme. Au-delà des lacunes matérielles, poursuit la presse africaine.net, l'OGDGL dénonce également des graves manquements procéduraux. La loi prévoit que le magistrat ayant ordonné la détention mette en œuvre les diligences nécessaires et saisisse la chambre du conseil pour régulariser la situation des détenus dans un délai imparti. À Uvira, cette procédure n'est pas respectée. Des personnes restent emprisonnées depuis des semaines sans que leur situation soit examinée par la chambre du conseil, et savoir le directeur de l'ODJGL, maître Ghislain Baraïga. L'observatoire évoque également les manques de supervision hiérarchique. Le chef des parquets, selon maître Baraïga, vit au Burundi et ne suit pas régulièrement les dossiers locaux. Ces vides de supervision laisseraient une route ouverte aux violations des droits des prisonniers, alerte ces derniers. Dans un autre sujet, Info 27 titre en sa manchette, Fally Ipupa vise grand, rendez-vous au Stade de France le 2 mai 2026. Ce quotidien révèle que l'artiste congolais Fally Ipupa vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière internationale. Dans une annonce émouvante faite le mercredi 1er octobre sur ses réseaux sociaux, souligne ses portails, la star de la rumba congolaise a confirmé qu'il se produira pour la toute première fois au Stade de France le 2 mai 2026. Cité dans les colonnes de ses tabloïds, Fally Ipupa a déclaré, je cite, « Les amoureux de la musique et de la culture, mes warriors, de Kinshasa à Paris, de l'Afrique au reste du monde, vous avez toujours été là. » Avant d'ajouter, je suis très ému de vous annoncer qu'aujourd'hui, je réalise un rêve, mon premier concert au Stade de France. Fin des citations. Surnommé l'aigle, signale Info 27, Fally Ipupa n'a pas caché sa fierté de voir ses rêves devenir réalité, décrivant ses rendez-vous comme bien plus qu'un simple concert. Avec cette performance, rapporte la référence plus, l'ancien membre de l'orchestre Quartier Latin sera ainsi le premier artiste de la RDC à se produire dans cette enceinte mythique de 80 000 places, symbole des plus grands événements musicaux et sportifs. Depuis l'annonce, note ce quotidien, l'artiste et musicien a reçu une pluie de messages de félicitations et d'encouragement, particulièrement de la part des Congolais, fiers de voir leur culture portée sur la scène internationale. Pour ses portails, Fally Ipupa confirme ainsi sa place parmi les figures incontournables de la musique africaine contemporaine et s'apprête à inscrire son nom au panthéon des artistes ayant marqué l'histoire du Stade de France. Selon Bams Baoundiou, l'un des communicateurs de l'artiste cité dans les colonnes de l'agence congolaise de presse ACP, les concerts du 2 mai 2026 s'annoncent comme un événement historique, bien au-delà d'un simple rendez-vous musical. Il poursuit, je cite, Ces concerts marquera une page d'histoire que Fally Ipupa est en train d'écrire. Et des générations continueront d'en parler, car ce qu'il accomplit, aucun autre artiste né et grandi en RDC n'a osé le faire. C'est produire au Stade de France. C'est une première. Ce sera aussi une célébration emblématique de ses 20 ans de carrière solo. Les fans venus des quatre coins du monde seront là pour saluer les parcours exceptionnels de cette icône de notre musique. Terminons avec factuel.cd qui confirme l'ouverture de la billetterie pour le 8 octobre 2025 à destination de tous les mélomanes disséminés à travers le monde, désireux de participer à ces concerts. Conclut ce site internet d'information.
Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Barton Boussimé. Au microphone pour la présentation, c'était Benoît Omer Moudekereza. Au revoir.